Vous écoutez, on lit pour vous.
À chaque vague de chaleur, nos organes prennent coup de vieux. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir. À chaque vague de chaleur, nos organes prennent un petit coup de vieux, selon une étude asiatique publiée fin août 2025 dans Nature Climate Change. Chez les personnes les plus exposées aux canicules, l'effet serait du même ordre que celui de la cigarette ou de l'alcool. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données médicales d'une cohorte de 24 922 adultes récoltées entre 2008 et 2022 à Taïwan. Ils ont calculé l'évolution de l'âge biologique des participants grâce à différents paramètres de santé, comme la fonction pulmonaire et la pression sanguine. Durant la période considérée, Taïwan a connu une trentaine de vagues de chaleur. Selon leur lieu de résidence, tous les participants n'ont pas été aussi exposés aux canicules. Il s'avère que ceux qui ont davantage subi d'épisodes chauds ont vu leur vieillissement accélérer. En clair, une personne exposée à 4 journées supplémentaires de canicule sur une période de 2 ans a vu son âge biologique augmenter d'environ 9 jours. Les travailleurs manuels, qui passent plus de temps dehors, ont subi un effet plus fort, avec un bond de 33 jours de leur âge biologique. Cette accélération du vieillissement peut paraître modeste, mais elle est calculée sur seulement 2 ans de vie. Si l'exposition aux vagues de chaleur s'accumule pendant plusieurs décennies, l'effet sur la santé sera bien plus important, a déclaré Cui Guo, une autrice de l'étude, citée par The Guardian. Une surprise attendait les auteurs durant l'analyse. Durant la période de 15 ans, l'effet vieillissant des vagues de chaleur s'est amenuisé. Les scientifiques croient que cela démontre que la population taïwanaise s'est dotée de stratégies d'adaptation aux grandes chaleurs, où la climatisation joue vraisemblablement un rôle. Quant aux mécanismes biologiques qui accélèrent le vieillissement durant les canicules, il est encore inconnu. Les scientifiques suspectent un effet de la chaleur sur l'ADN, mais d'autres travaux seront nécessaires pour explorer cette piste. C'était « À chaque vague de chaleur, nos organes prennent coup de vieux », un texte d'Alexis Riopel, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir.
Le Royaume des jeunes lecteurs, un texte de Lila Dussault, paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Le rituel de la bibliothèque. Arthur voulait vraiment aller à la bibliothèque après l'école. Maxence, lui, est venu avec sa mère chercher un livre réservé. Un peu plus loin, sur un tapis de jeu, Ella est amoureuse de la série Crocolou. Nous sommes à la bibliothèque Hochelaga, un vendredi en fin de journée. Les séries jeunesse garnissent les rayonnages rouges. Quelques familles vont et viennent, profitant de la fin des classes ou de la garderie pour faire le plein. Les prêts de livres chez les enfants ont atteint un sommet en 2024. Ils sont aussi en augmentation depuis 10 ans, selon les données de la ville de Montréal obtenues par la presse. En 2015, les adultes empruntaient davantage de livres que les enfants. Cette tendance s'est inversée dès l'année suivante. Évidemment, la fréquentation des bibliothèques a chuté pendant la pandémie. Depuis, ce sont les jeunes qui ont investi les lieux. Entre 2015 et 2024, les prêts et renouvellements de romans jeunesse ont augmenté de 124%, ceux de bandes dessinées et mangas de 59% et ceux de documentaires jeunesse de 48%, indique Nikki Kayer, relationniste de la ville de Montréal. C'est bien au-delà de la croissance démographique montréalaise de 9,5%, nous a-t-elle écrit. Cet achalandage, le chef de section de la bibliothèque Hochelaga, Philippe Bertrand, le vit au quotidien. « Ces chariots, ce sont juste les prêts d'une semaine », s'exclame-t-il en pointant 2 structures débordantes de livres. École, garderie et famille utilisent les services de cette petite bibliothèque, l'une des 2 consacrées à la jeunesse dans l'île de Montréal. L'autre est située dans Hansick, quartier-ville. Située à l'angle des rues Ontario et Davidson, en plein secteur défavorisé de la métropole, la bibliothèque Hochelaga a recentré sa mission sur les jeunes pour mieux répondre aux besoins du quartier, explique M. Bertrand. Résultat, un milieu communautaire sûr pour les enfants, où les familles se retrouvent souvent les samedis matins, après le cours de natation et avant d'aller au parc. Les familles cherchent cette richesse-là, assure M. Bertrand, parce qu'ici, les livres sont gratuits et ça coûte cher d'en acheter. Transmettre l'amour de la lecture. Pour plusieurs de ces familles, les visites à la bibliothèque sont devenues un rituel, une excellente façon de favoriser l'amour des livres chez les enfants par ailleurs. Jeune, ma vie, c'était la lecture, explique Valérie Villemur, mère de la petite Hélène, 26 mois. Tous les deux, on aime beaucoup lire, donc on veut lui transmettre cet amour, en chérit Félix Feillette. Découvrir la lecture, apprendre à se divertir sans écran, développer l'imagination. Les familles croisées sur place vendredi voient beaucoup d'avantages à initier leurs enfants au livre. Je ne suis pas une grande lectrice, mais petite, je lisais beaucoup. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses, explique Clémence Buisson. La nouvelle résidente du quartier souhaite transmettre cette curiosité à sa bambine de 2 ans, Ella, en venant souvent sur place. Chez les plus grands, l'amour des livres est souvent déjà acquis. Je dois même donner des périodes de non-lecture aux enfants, s'exclame Simon-Xavier Lefebvre, croisé avec son fils Arthur, 7 ans. Ce jour-là, Arthur avait envie d'aller à la bibliothèque après l'école plutôt qu'au skatepark. Sa série du moment, les bandes dessinées belges Kid Paddle. Mais il est aussi en train de découvrir les mangas, précise-t-il. Un peu plus loin, Maxence, 5 ans, a 3 champs d'intérêt, détaille-t-il avec sérieux, dans l'ordre, l'astronomie, les super-héros et les chantiers. Quand on arrive, moi, je vais voir les nouveautés et lui, les documentaires, décrit sa mère Émilie Bouffard. Attirer les non-lecteurs. À l'occasion, ce sont même les enfants qui font découvrir la bibliothèque à leurs parents. Ici, c'est quoi le règlement? Comment on peut s'abonner? Demande Cholchon en mettant les pieds sur les lieux pour la première fois. Sa fille, Lia, 8 ans, souhaitait attendre sa mère sur place. Moi, je ne lis pas grand-chose à part les affaires sur Facebook. C'est elle qui voulait venir, souligne le père de famille. C'est aussi le rôle des bibliothèques d'attirer les non-lecteurs. À Hochelaga, plusieurs activités pour les enfants sont prévues, allant de l'heure du conte pour les tout-petits à un atelier de théâtre et à une séance de jeux vidéo. Le programme Une naissance, un livre et la boîte Bienvenue bébé de la ville de Montréal sont aussi deux initiatives qui attirent les familles sur place, indique Philippe Bertrand. Dans le premier cas, les parents reçoivent un livre gratuit en abonnant leur poupon à la bibliothèque. Dans le deuxième cas, une boîte contenant une douzaine d'articles pour bébés est remise à tous les nouveau-nés montréalais par la ville. Pour la récupérer, les parents doivent aller à la bibliothèque. C'est sûr que ça a un impact sur les abonnements, observe M. Bertrand. Et souvent, ça attire les non-lecteurs. En savoir plus. Source Pascal Genet, chargé de projet de l'Observatoire de la culture et des communications au Québec. 50%, c'est la proportion des personnes de 30 à 44 ans qui font la lecture à des enfants au Québec. 63%, c'est la proportion des personnes nées à l'extérieur du Canada qui ont fréquenté une bibliothèque publique dans les 12 derniers mois. Inculquer le goût des livres. Vous souhaitez transmettre l'amour de la lecture à votre enfant? Voici en rafale les conseils de Stefano Rezzonico, chercheur et professeur à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Rendre les livres accessibles. Dans le salon, par terre, au milieu des jouets, dans la voiture, dans le métro, laissez des livres à la portée des enfants. Des livres jeunesse, des magazines, des albums avec des photos. Donner des livres aux parents serait même l'une des meilleures façons de favoriser la lecture chez les jeunes, précise M. Rezzonico. Organisez des rendez-vous autour de la lecture. Planifiez des visites à la bibliothèque de quartier, à la librairie, à la friperie. Allez porter et chercher un livre dans une boîte à livres. S'abonner à un magazine et avoir le plaisir de le recevoir. Aller dans des organismes communautaires qui offrent des livres. Intégrer la lecture à la routine. Faire de la lecture un moment quotidien avec son enfant, avant de se coucher, en se levant, etc. Développer un rituel autour du livre, ça permet de rendre la lecture plaisante et pas uniquement un devoir scolaire, précise le spécialiste. Lire le même livre 10 000 fois. Les très jeunes enfants veulent souvent lire le même livre encore et encore. Aux grandes dames de leurs parents. Mais cette répétition est bonne pour eux, tempère M. Rezzonico. Elle permet à l'enfant d'anticiper les actions et de faire des liens. Par exemple, à force de lire un livre, un enfant va finir par se dire « Ah, c'est parce qu'il est tombé dans la brouette qu'il est couvert de boîtes ». Banal pour les parents, découverte géniale pour un enfant de 2 ans. Laissez l'enfant choisir ses livres. Encouragez l'enfant à choisir ses livres, même s'ils paraissent moins éducatifs. Ou encore, trouver des ouvrages qui correspondent à ses intérêts. Par exemple, un enfant sportif va peut-être préférer courir à lire. Mais il y a des revues sur le sport, il y a des BD sur le sport, il y a des livres sur le sport, des guides sur le sport. Dans ce sens-là, chacun reçoit sa littérature, souligne l'expert. Être un modèle. Lire soi-même est une bonne façon de transmettre l'amour des livres aux enfants. Lire en vacances, lire au quotidien, avoir des livres sur sa table de chevet, parler de ses lectures à table. Varier les styles de lecture. Il y a plusieurs façons de lire un livre avec un enfant. En lui posant des questions, en pointant les images, en faisant des liens avec son vécu. C'est ce qu'on appelle la lecture interactive. Mais il est aussi possible de faire de la lecture un moment de calme et de connexion où l'enfant se détend ou s'endort. La variété est la clé, souligne M. Rezzonico, lui-même père de deux enfants de 3 et 7 ans. Être créatif. Gardez en tête qu'il n'y a pas une seule façon de lire. Les jeunes enfants peuvent aimer les albums où ils doivent faire des actions, comme ouvrir des portes ou taper dans les mains. Certains livres font des bruits ou de la musique. Pour les plus vieux, il existe aussi des applications comme Booka, où la lecture se fait en ligne. L'idée n'est pas de remplacer le livre papier, selon l'expert, mais ça peut être un motivateur. C'était « Le royaume des jeunes lecteurs », un texte de Lila Dussault, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.
Quand les menus travaux se transforment en obstacles au vieillir chez soi. Un texte de Marie-Michèle Laure, paru le 22 octobre 2025 dans La Conversation. La plupart des personnes âgées au Canada préfèrent vieillir chez elles et dans leur communauté. Dans une enquête réalisée en 2020, 96% des Canadiens âgés de 65 ans et plus ont déclaré qu'ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir afin d'éviter d'entrer dans un établissement de soins de longue durée. De plus, une étude menée en 2024 révèle que la majorité des personnes aînées, 61%, souhaitent rester à la maison jusqu'à la fin de leur vie, mais pas à n'importe quel prix. Vivre dans un endroit sécuritaire et adéquat est essentiel dans la perspective d'un maintien à domicile. La qualité du milieu de vie d'une personne est un déterminant de sa santé. Ainsi, plusieurs facteurs associés au logement ont une influence sur la santé et le bien-être, selon une étude publiée en 2024 par l'Institut national de santé publique du Québec. On compte des facteurs physiques et environnementaux, comme la qualité de l'air ou la température, des facteurs sociaux et psychologiques, tels que le sentiment de sécurité, ou encore des facteurs ergonomiques et fonctionnels, comme le fait d'avoir un espace suffisant, un aménagement adapté et un accès facile à son lieu de vie. Or, tout logement demande de l'entretien. Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne n'arrive plus à prendre soin de son milieu de vie? Quand déneiger l'entrée devient une tâche insurmontable ou vider ses gouttières? Avec l'avancée en âge, il peut devenir de plus en plus pénible d'entretenir sa maison seule. Certaines tâches peuvent être difficiles à accomplir en raison d'un manque d'énergie ou de capacité diminuée. Notre équipe de recherche réalise, en partenariat avec l'organisme Développement social Lanaudière, un projet de recherche pour mieux comprendre les besoins des personnes aînées en matière de menus travaux, ainsi que les facteurs qui entravent le déploiement de services à large échelle au Québec. Nous souhaitons développer un modèle de prestation de ce type de service qui tient compte des réalités territoriales diverses du Québec, régions rurales, semi-urbaines et urbaines. Les services de menus travaux, l'angle mort du maintien à domicile. Les services de menus travaux sont l'ensemble du soutien et de l'aide pour les tâches d'entretien, de réparation, d'installation et de remisage qui demandent un peu de force ou une énergie soutenue. Les menus travaux comprennent la réalisation de tâches qui sont en hauteur ou qui exigent de la souplesse ou de la force, qui nécessitent des connaissances particulières et des habiletés manuelles et qui ne sont pas visées par les métiers qui exigent des cartes de compétences. Des services pourraient permettre aux personnes qui en ont besoin, dont les aînés, de disposer d'aide pour entretenir leur domicile et en assurer la salubrité et la sécurité. Malgré le fait que les besoins de services de menus travaux devraient croître de manière corollaire à l'évolution du vieillissement de la population, il est étonnant de constater qu'au Québec, ils n'ont pas fait l'objet d'une mise en place structurée et ne sont pas offerts dans toutes les régions. Actuellement, les rares initiatives locales de menus travaux qui existent sont principalement mises sur pied par des acteurs du secteur communautaire ou du secteur privé. Par exemple, des coopératives ou des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Elles desservent un petit bassin de personnes aînées sans déploiement à large échelle. Les quelques initiatives existantes ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de la population vieillissante d'aujourd'hui et encore moins dans les années à venir. Le gouvernement n'inclut toujours pas les menus travaux dans les services offerts au soutien à domicile. Il n'a pas non plus bonifié le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, PEFSAD. Il pourrait pourtant offrir une réduction des coûts associés au recours à des services provenant du secteur privé pour les aînés, selon leur niveau de revenu. Quatre difficultés auxquelles se heurtent les aînés. Il devient prioritaire de se pencher sur les conditions gagnantes pour développer un modèle de service de menus travaux offert à grande échelle au Québec et favorable au maintien à domicile des personnes aînées. Le projet de recherche que nous poursuivons a permis à ce jour de créer des espaces de parole pour que les personnes aînées elles-mêmes nomment leurs enjeux et besoins face aux services de menus travaux. Ce qui en ressort, c'est qu'elles doivent s'engager dans des recherches interminables d'un prestataire de services lorsqu'elles désirent obtenir des services de réparation ou d'entretien de leur domicile. Elles désirent donc un service facile à trouver. Puis, elles ont de la difficulté à trouver des personnes en qui elles ont confiance pour réaliser les travaux et entrer dans leur intimité, dans leur chez-soi. Elles désirent donc un service qui est offert par une organisation de confiance, un CLSC ou une entreprise d'économie sociale de leur région, qui dispose de moyens financiers suffisants pour retenir une main-d'œuvre qualifiée, fiable et stable. Finalement, il leur est difficile de comprendre les mécanismes de remboursement des services de menus travaux. En effet, il existe certains programmes gouvernementaux pour couvrir une partie des frais reliés aux services de menus travaux, mais ces programmes sont peu connus, ne remboursent qu'une portion des frais encourus et sont difficilement accessibles. Elles aimeraient donc avoir accès à des processus de remboursement ou de couverture simples, accessibles et suffisants. Le soutien à domicile doit aller au-delà des soins de santé. Un service de menus travaux accessible, stable, de proximité et bien financé semble être une avenue à prioriser. Il n'est pas encore clair qui devrait être le porteur de ballon de ce service. Est-ce que ces services doivent être offerts par le secteur de la santé et des services sociaux? Est-ce que le gouvernement devrait bonifier le programme d'exonération financière pour y inclure une meilleure couverture des services afin que le déploiement à large échelle de ce service par les entreprises d'économie sociale en aide à domicile soit possible, c'est-à-dire rentable? Cela reste à déterminer. Une chose est certaine, demeurer chez soi en vieillissant ne devrait pas être la seule responsabilité des personnes aînées, mais bien celle des gouvernements et des organisations qui pourraient et devraient mieux les soutenir. Pour ce faire, une vision globale des facteurs qui influencent la santé est nécessaire. Nous ne pouvons restreindre le soutien à domicile au seul aspect médical et aux soins offerts. Nous devons mettre en place des services pour que le maintien à domicile soit fait dans des domiciles sécuritaires et satisfaisants pour ceux qui y demeurent. C'était « Quand les menus travaux se transforment en obstacle au vieillir chez soi », un texte de Marie-Michèle Laure, paru le 22 octobre 2025 dans « La Conversation ».
Deux voyageurs, un texte d'Yves Lafond, paru le 6 novembre 2025 dans l'Aurore boréale. Il y en a pour qui leur destinée semble toute tracée, et ce, depuis leur tout premier pas, peu importe qu'ils se dirigent vers le bien ou vers le mal. Les gens nés sous cette étoile iront leur chemin pendant toute une vie en suivant des traces en apparence dessinées juste pour eux. Tout en allant de l'avant sans s'enfarger dans les grandes questions, ils apprendront tout de même de grandes vérités. Pour d'autres, le parcours sera plus confus. ils semblent voués à se compliquer l'existence en empruntant une multitude de chemins insensés. Des chemins de traverse, bourrés d'obstacles, parfois périlleux, pour finir par ne découvrir que de banales pseudo-vérités. C'est mon cas. Mais aussi et surtout celui de cet homme, rencontré il y a fort longtemps, lors d'un voyage mémorable. J'ai pris une éternité à en apprécier toute la portée. Et pour tout dire, je suis encore sous l'impression de n'avoir absorbé qu'une partie de son histoire, encore aujourd'hui. J'ai rencontré ce type au début des années 80, lors d'un voyage en train vers le Grand Nord canadien. L'économie, comme happée par un tsunami, s'était effondrée pendant cette période de manière catastrophique en faisant exploser les taux d'intérêt. À la suite de ce tour de passe-passe, l'or, en tant que valeur refuge, avait connu une flambée des prix sans précédent. Jeune journaliste à l'époque, j'avais toujours été fasciné par ces histoires extravagantes de chercheurs d'or de légende du temps du Klondike. Je me demandais si, en ces temps modernes, fatals à tout romantisme, il subsistait encore au Yukon des aventuriers de cette race prêts à tout pour avoir la chance d'extraire des entrailles de la terre ce métal précieux. J'étais curieux aussi de vérifier s'il était vrai que le seul miroitement de son reflet suffisait à frapper d'une fièvre incurable de cupidité même les esprits plus rationnels et désintéressés. J'avais réussi à convaincre mon patron, éditeur d'une revue mensuelle d'actualité financière, de m'assigner ce voyage. Je lui avais promis au moins une douzaine d'histoires à faire rêver ses lecteurs pendant un an. Ils étaient aussi avides de bonnes histoires que de dollars. Pour me tremper dès le départ dans cette atmosphère de ruée vers l'or, comme en 1898, qui inspira de grands auteurs de l'époque, de Jack London à Charlie Chaplin, j'ai pris un billet de train. Je comptais voyager ainsi de Montréal jusqu'à Edmonton, où je louerais un camion pour parcourir la deuxième moitié du périple vers Dawson. J'ai pris le train un mardi matin. Centre-ville de Montréal, gare Bonaventure. Nous sommes arrivés à Toronto en milieu d'après-midi. Ça grouillait de gens préoccupés par leurs affaires quotidiennes, sûrement très importantes, mais importantes pour eux seuls. Ils me pressaient de laisser derrière moi, sur les rails infinis de ce chemin de fer, le tumulte de ces vies urbaines. Assis tout seul au bar de cette gare, attendant le départ du soir, je me voyais déjà, une assiette de prospecteur dans les mains, sur la grève de la rivière Klondike, à trier ces scintillantes petites pépites. Bien qu'encore à des milliers de kilomètres de ces cours d'eau féeriques, je sirotais du Jack Daniels pour me donner une contenance, comme pour tenter de ressembler à ces aventuriers irréductibles et barbus. La fièvre de l'or commençait-elle déjà à me saisir? Peut-être était-ce moi qui la saisirais à bras-le-corps. Vers les 11 heures du soir, soit une heure après le départ, je me suis dirigé vers ma chambrette, l'esprit un peu embrumé par tous ces verres de bourbon enfilés pendant l'après-midi. Au grincement des roues sur les rails, dans le tangage du wagon berçant mon lit, je me suis endormi comme un bébé dans la nuit ontarienne. Au matin, à mon réveil, je suis resté étendu dans mon lit, sortant du mur comme un tiroir à la hauteur de la fenêtre. J'ai pu faire ainsi la grasse matinée en admirant le paysage forestier défilant le long de la voie ferrée. D'après la densité de cette forêt, j'estimais que nous devions être rendus quelque part dans le nord de l'Ontario. Les grands centres étaient définitivement derrière nous. Je trouvais fort agréable de pouvoir dormir, puis de me prélasser hors du temps, tout en parcourant des milles et des milles comme sur un tapis roulant. J'en conclus dès lors que le train s'avérait une plaisante manière de voyager. Puis, l'envie pressante d'un bon café se fit sentir. Une fois habillé, en marchant dans le couloir vers le wagon-restaurant, je me suis amusé à me demander si, lors de ce voyage, je serais témoin d'un meurtre à la Agatha Christie, où s'improviserait quelque Hercule Poirot nordique, disposant de quelques jours seulement pour démasquer le coupable. Vu l'heure tardive de l'avant-midi, le wagon-restaurant était presque vide. Je m'y attardai pas trop longtemps. Je ne voulais pas importuner le personnel qui s'affairait à préparer la salle à dîner pour le midi. Je me suis contenté donc d'une visite sommaire des lieux. Tout avait l'apparence d'un train classique, comme on en voit au cinéma. Le wagon-restaurant, d'une propreté impeccable, ornait ses tables de nappes blanches et d'un délicat bouquet de fleurs. Après avoir traversé trois wagons-lits composés de couchettes cachées par d'épais rideaux noirs, on arrivait au wagon-bar. Celui-ci était meublé de quatre ou cinq longues banquettes en forme de fer à cheval et recouvertes de cuir rouge. Un barman à chemise blanche et nœud papillon noir assurait le service et me servit mon deuxième café. À l'avant de ce wagon se trouvaient deux wagons de deuxième classe munis de sièges libellés super confort. Ce ne sont en réalité que des sièges confortables, certes, mais qui font aussi office de lit la nuit venue. À se demander si, après trois ou quatre jours et nuits sur le même siège, le voyageur leur accordera toujours leur titre de super confort. Quand vint l'heure du lunch, le maître d'hôtel, fort poli, m'assigna une table déjà occupée par trois autres passagers solitaires qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. La seule chaise libre où je pris place était orientée vers l'arrière du train. Ce qui est bien avec les voyages en train, pour une personne sociable, c'est la quantité d'occasions d'engager une conversation avec des inconnus. Les circonstances rendant la fuite impossible, ils auront de la difficulté à vous éviter ou vous ignorer. C'était « Deux voyageurs », un texte d'Yves Lafont, paru le 6 novembre 2025 dans l'Aurore boréale.